Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nouvelle émission, nouvelle invitée. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Gwenaëlle Robert, que j'ai rencontrée en janvier dernier à Dijon, au Grand Hôtel de la Cloche, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne pour y présenter son dernier roman, un roman historique intitulé Le dernier bain, toujours disponible en librairie aux éditions Robert Laffont. Gwenaëlle Robert est professeure de lettres, elle vit à Saint-Malo et Le Dernier Bain est son deuxième roman. Elle avait d'ailleurs, avec son premier roman intitulé Tu seras ma beauté, elle avait été récompensée par le prix Draveil. Alors aujourd'hui dans Wagon Livre avec Le Dernier Bain, nous revenons à Paris lors de l'an 2 de la République, au moment où notre pays vibre sous le souffle de la terreur. Et c'est effectivement un superbe roman historique qui nous permet de revisiter une période troublée, une période très violente où défilent un grand nombre de personnages. Jane, une jeune Anglaise qui est cachée dans l'appartement d'aristocrates émigrés. Théodose, un moine qui a renié sa foi par peur de la guillotine. Marthe, la lingère de Marie-Antoinette emprisonnée au temple. David, le fameux peintre et député de la Convention. Ou encore une Normande du nom de Charlotte Corday, tout juste arrivée à Paris. En tout cas, ils sont nombreux, ceux qui tournent autour du logis de la rue des Cordeliers, où Marat, cloîtré, immergé dans des bains de soufre, traque les suspects hostiles aux idées de la République. À travers cette fiction historique, l'auteur Gwenaëlle Robert détruit l'image sublime et mensongère que David le peintre a laissée de son ami Marat. Du bout de sa plume, grâce à un dispositif romanesque et à un sens de la reconstitution impressionnant, l'auteur gratte le vernis de la peinture pour révéler la réalité du monstre. Bienvenue une fois de plus dans Wagon Livre. On marque une pause musicale et juste après, nous vous proposons l'entretien avec Gwenaëlle Robert, auteur du Dernier Bain, roman paru aux éditions Robert Laffont.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien. On veut se barrer, même plaque et or. Paris est mort, il est 5 heures. Paris s'endort, je sens j'étouffe. Je manque de souffle, je suis tout pâle. Sur un petit bout, j'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer. Écouter les gens se taire. j'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie, c'est la plus belle, j'en fais Paris. Il n'y a qu'elle, c'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Gwenaël Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous signez aux éditions Robert Laffont un roman historique. Vous êtes d'accord?
Oui, absolument.
Le dernier bain, et c'est un bain aussi dans l'année 1793, puisque votre roman s'ouvre très précisément le 11 juillet 1793, au moment où le pays s'apprête à commémorer le 14 juillet. Mais au centre du roman, gravite un personnage qui suscite l'effroi, Marat, on y reviendra, bien sûr. Le dénouement est déjà entièrement connu.
Oui, il n'y a pas beaucoup de suspense.
Pas beaucoup de suspense, mais quelque part, on pourrait dire que parfois votre roman flirte avec le polar, puisqu'il y a différents personnages qui s'approchent du domicile de Marat dans le but, si je peux me permettre l'expression, de lui régler son compte. Alors, je ne vais pas être trop long, dans le prologue, Vous évoquez vos souvenirs de jeune collégienne. Moi, j'avais 18 ans au moment des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Et vous m'avez rappelé mon jeune temps. Quel lien avez-vous avec la Révolution française, si ce n'est que vos ancêtres étaient des Vendéens qui ont été massacrés? En fait, votre papa avait un regard un peu suspicieux sur ces commémorations. Enfin, un regard un peu négatif.
Oui, un peu de défiance peut-être par rapport à l'histoire officielle. On n'a pas été élevés tellement dans les souvenirs vendéens de mon père. D'abord, c'était assez loin. Par ailleurs, mes ancêtres s'étaient installés ensuite dans la Loire, enfin à La Flèche précisément, dans la Sarthe. Ils n'avaient jamais pu repasser la Loire. Et de fait, on en parlait très peu. Mais c'est vrai qu'à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, et je dirais du tapage médiatique qu'il y a eu autour de cette commémoration, qui avait vraiment pris une envergure officielle très importante, c'est vrai que j'avais senti chez mon père une forme de réticence à participer à la liesse collective. Et naturellement, moi j'avais 13 ans, on était, y compris dans mon collège, on était invités à célébrer de différentes façons. Je me souviens qu'on avait fait une pièce de théâtre sur la vie de Robespierre, et j'avais senti dans la réticence de mon père qu'elle rencontrait chez moi une forme de méfiance à l'égard de tout ce qui est trop collectif et un peu obligatoire. Il fallait se réjouir, et je me souviens très bien qu'à l'époque, les journaux disaient que tous ceux qui avaient vaguement émis un certain nombre de doutes sur la célébration de cet événement, qui avait aussi donné lieu à la terreur, à beaucoup de morts et à des épisodes sanglants. Eh bien, je me souviens qu'on disait à ce moment-là que ces gens-là étaient des pisse-froids et que finalement, il fallait se laisser emporter par une sorte de liesse obligatoire et populaire. Et je crois que c'est ce caractère obligatoire qui, chez moi, avait rencontré une certaine défiance. C'est à ce moment-là que j'ai parlé avec mon père et que mon regard sur cette période de l'histoire s'est ombré d'un peu d'inquiétude.
D'ailleurs, je vous cite page 12. Vous écrivez « On avait mis le masque de la comédie sur le visage de l'histoire, cette grande dame pas drôle qui prend tout au tragique, et on l'avait sommée de faire la fête comme tout le monde. The show must go on. »
Oui, je crois que c'est assez propre à notre époque, hein, l'idée de la fête, en particulier ici le défilé du 14 juillet qui rappelait tous ces défilés qui ont eu lieu aussi au moment de la Révolution, et de faire la fête, et puis peut-être, oui, de jeter un voile pudique, hein, sur tout ce qui peut déranger et qui me semblait, moi, justement intéressant. Peut-être parce qu'à 13 ans, on aime bien soulever les voiles pudiques et que et regarder ce qu'il y a dessous. Et dessous, j'ai trouvé quand même beaucoup de cadavres, beaucoup de morts, et puis des personnes personnages comme le personnage de Marat, mais d'autres aussi, hein, qui se voulaient amis du peuple ou chantres de la liberté et qui étaient devenus des tyrans.
D'ailleurs, effectivement, vous ressuscitez cette France de 1793, cette France de la terreur, où effectivement, la peur domine. Il y a d'ailleurs un paragraphe où il y a l'anaphore, la peur. C'est assez terrible de relire. Alors, on le sait, mais en mettant en scène vos personnages, donc ces différentes femmes sur lesquelles nous allons revenir, le peuple, les prêtres qui ont abjuré la religion, qui sont devenus donc les prêtres jureurs, tout le monde a peur dans cette France de 1793. On est loin de la... C'est pas la fête pour tout le monde, quoi.
Non. Je crois que la peur domine d'une part parce qu'on craint de revenir en arrière. Toutes les armées étrangères sont massées aux frontières de la France et on craint qu'elles viennent rétablir en France une monarchie. Donc il y a une sorte d'escalade de peur, c'est-à-dire que des deux côtés... on craint finalement de payer pour ce qui s'est passé. Et on voit bien d'ailleurs ensuite les massacres de septembre, hein, ils confirmeront, c'est la peur qui motive tout à coup le peuple à aller égorger les prisonniers de peur que les prisons s'ouvrent et que ce soit les prisonniers eux-mêmes qui viennent se venger. Donc finalement, on sent qu'il faut qu'un parti l'emporte et donc il y a une sorte d'escalade comme ça de peur et la terreur, évidemment, en est l'orchestration, je dirais, collective de cette peur.
D'ailleurs, Gwenaël Robert, il m'a semblé que la Révolution était elle-même un personnage. D'ailleurs, vous écrivez, elle est jeune et infatigable.
Oui, absolument.
La République est un personnage aussi dans
oui,
ce roman.
Exactement. Oui, je crois qu'il y a cette idée, effectivement, qu'elle s'incarne dans une sorte de mouvement, comme ça, de jeunesse, par rapport à un monde trop vieux qui s'effondre et qui laisse place à cette nouvelle République.
Alors, revenons au début de votre roman. Donc, le 11 juillet 1793, 23 Messidor de l'an 2 de la République française. Je vais vous demander, Gwenaël, vous qui êtes professeur de lettres, de nous parler de Marat. Moi, effectivement, c'est vrai qu'on a tous en tête cette image presque icône laissée par la République de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Alors, finalement, j'apprends en vous lisant que Marat a d'abord été un médecin.
Oui, enfin, il n'a pas eu son diplôme de médecin, mais il a exercé en tant que médecin. Et surtout, il s'intéresse beaucoup à la recherche. Mais il a exercé, et c'est comme ça que j'ai imaginé, hein, il a exercé entre autres à Londres. J'ai imaginé qu'il avait pu, parce que c'était quelqu'un qui n'avait jamais obtenu son diplôme, j'ai imaginé qu'il avait pu aussi faire des victimes en exerçant sa médecine.
Alors, il a... un mode de vie très particulier. Je cite certains passages du roman. Hein. Il vit comme une taupe. Est-il pourri de l'intérieur? Cet homme est malade. Il a une maladie de peau. Alors, est-ce que c'est un eczéma? Est-ce que c'est une maladie vénérienne?
Oui,
on n'a jamais trop su, finalement.
Non. Il y a plusieurs interprétations. Certains historiens disaient effectivement que c'est un eczéma génétique et d'autres qu'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une peau qui est en décomposition, tellement d'ailleurs en décomposition qu'on considère que si Charlotte Corday ne l'avait pas assassiné, il serait mort de toute façon dans les mois qui ont suivi son assassinat. Donc c'était quelqu'un qui était voué à la mort et seul donc des bains de soufre lui permettaient de supporter les démangeaisons de cette peau, et ce qui explique qu'il était immergé dans ces bains, je dirais, de façon constante.
Alors, il y a cette baignoire sabot qui est un objet important aussi dans le roman, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce Marat qui est enfermé chez lui, qui vit comme une taupe, je vous cite, il vit cloîtré chez lui, prisonnier de sa baignoire de cuivre. Il y a d'ailleurs toutes les premières pages où vous revenez sur cette baignoire qui se trouve donc maintenant au musée Grévin.
Oui.
C'est l'authentique baignoire, on en est sûr ?
On n'en est pas tout à fait sûr parce que de fait elle a disparu, il y a eu toute une période transitoire où on ne sait pas très bien où elle est. Mais de fait, il a été considéré que celle qui avait été remise au curé de Sarzeau, qui lui-même ensuite l'a vendue au musée Grévin, on a considéré que c'était réellement celle de Marat. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu d'expertise réelle, mais tout porte à croire qu'effectivement elle a pu être la baignoire authentique. En tout cas, il n'en existe pas d'autres et personne ne s'est réclamé, en tout cas propriétaire, d'une baignoire de Marat. Et vous avez raison lorsque vous dites qu'il vit absolument caché, puisqu'en revanche, les lettres de Marat, hein, elles prouvent bien effectivement qu'il était à l'écart, qu'on ne le voyait plus, et il signe toujours, hein, il mentionne au-dessus de sa signature « de mon tombeau, le tel jour 1793.
Et là où le personnage est terriblement effroyable dans cette France de la terreur, là je vous cite encore, on le croit sans le voir. C'est-à-dire qu'il a quelque chose presque de Dieu laïque de la République, on sait qu'il est là, et on ne le voit pas. Il y a aussi beaucoup de références bibliques dans le roman. Notamment, vous rappelez cette phrase que Dieu dit à Moïse, hein, « Je montrerai ma beauté sans que tu vois ma face. »
Voilà.
Et alors, Marat, lui, incarne plutôt la laideur, un personnage assez répugnant de par cette peau jaunâtre qui part en lambeaux. Enfin, il y a quelque chose de monstrueux dans cet homme qui vit dans cette baignoire sabots. C'est effroyable.
Oui, je crois que s'il suscite un tel engouement, c'est précisément parce qu'on ne le voit pas. Et par conséquent, il y a quelque chose qui relève quasiment de la mystique, et on voit bien d'ailleurs l'adoration dont il a été l'objet, en particulier à sa mort, où il y a une sorte de commémoration populaire, sans doute très sincère, hein, de femmes qui pleurent, vraiment le peuple se sent orphelin de Marat. C'est probablement lié à cette mystique qui elle procède de du fait qu'ils vivent reclus et que par conséquent on ne le voit pas. Donc on a l'impression d'une sorte effectivement de Dieu, quoi. Il est déifié par ce caractère invisible.
En tout cas, il est une icône de la Révolution. On trouve son effigie sur des tabatières différentes. Il y a un culte autour de lui.
Oui, oui, absolument. C'est curieux d'ailleurs de voir comme sous la Révolution, il y a eu une sorte de commercialisation comme ça de l'image. Hein. Alors chez Marat, c'est très net, effectivement. On retrouve beaucoup d'objets qui le représentent avec son profil. Mais par exemple, on sait aussi, avec un personnage comme Palois, qu'on vendait des Bastilles miniatures qu'on sculptait dans les pierres de la Bastille. C'est un homme qui avait lancé ce marché. C'était un marché évidemment florissant. Donc il y a tout un tas d'objets, je dirais, dérivés des personnalités de la Révolution.
Si vous le voulez bien, Gwenaëlle Robert, on marque une nouvelle pause musicale dans Wagon Livre. Je rappelle le titre de votre roman disponible en librairie aux éditions Robert Laffont, Le Dernier Bain. Et c'est donc Gwenaëlle Robert qui est aujourd'hui l'invitée de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. Thought we could always try a bit harder. But if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten, all the tracks we've given up. Only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Gwenaëlle Robert qui est aujourd'hui devant notre micro. Elle signe aux éditions Robert Laffont une fiction historique intitulée « Le dernier bain ». Alors, Gwenaëlle Robert, Marat va être assassinée par Charlotte Corday, une femme haute en couleur. Et d'une certaine manière, votre roman est un hymne aussi aux femmes de la Révolution, qui ne sont pas toutes du côté de l'esprit de la Révolution. Du moins, certaines sont effrayées par les excès et les horreurs, et elles veulent y mettre un terme. Certaines basculent dans la folie, d'autres dans l'action meurtrière. En tout cas, lorsque Marat est assassiné le 13 juillet 1793 dans sa baignoire sabot par Charlotte Corday, nous le savons, il est même question d'ailleurs d'un tour de France du cadavre de Marat.
Oui, ça a été évoqué à l'Assemblée, effectivement, on voulait vraiment faire une cérémonie grandiose. Alors de fait, la cérémonie pour célébrer le 14 juillet a été annulée puisque Marat est assassiné le 13 juillet. Mais on a récupéré les différents chars qui avaient été prévus pour cette fête et on les a en quelque sorte recyclés pour la mort de Marat. Alors on ne pourra pas faire le tour de France qui avait été prévu parce que son corps en décomposition en fait laisse une odeur de putréfaction qui est insoutenable.
Et puis on est en juillet, il fait une chaleur terrible en France.
Exactement, c'est un été très chaud, mais on va le promener dans Paris en fait, et on va exposer aussi son corps dans le jardin des Cordeliers.
Alors, la tonalité du roman est toujours très grave, on est dans une tragédie, effectivement, et il y a des héroïnes tragiques qui finalement sont écrasées par... Alors, soit l'hérédité, c'est le cas de Marie-Antoinette, dont le destin est, j'allais dire, va être écrasé par le fait qu'elle est la femme... veuve de Capet. Il y a notre Charlotte Corday qui, elle, se sent investie d'une mission au nom du peuple français.
Oui, c'est au nom du salut public.
D'une certaine
public.
Manière, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
C'est ça, elle dit « j'ai tué un homme pour en sauver 100 000 », donc elle a le sentiment de faire œuvre de salut public, oui.
Et je reviens au personnage de Marat. C'est un être qui paraît... de par son invisibilité aux yeux du peuple parisien qui le vénère, enfin, certains le vénèrent sincèrement, d'autres vénèrent parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il y a la peur des délations. Vous parlez des marées de délations. Et il y a un moment dans votre roman, Marat jubile lorsqu'il a entre les mains des lettres de délation, notamment signées par des femmes.
Oui.
Une espèce de plaisir, une jouissance à se dire c'est une femme qui dénonce. Et là, il est encore plus heureux, semble-t-il. Il est monstrueux, cet homme.
Oui, alors là, j'ai inventé évidemment qu'il avait ce plaisir-là. Mais de fait, c'est quelqu'un, par exemple, on sait que s'il a fait entrer Charlotte Corday, c'est parce qu'elle lui a promis de lui donner des noms. C'est parce qu'elle venait pour une délation. Et puis, peut-être aussi parce qu'il est retranché du monde, les délations, en fait, c'est aussi un moyen pour lui d'avoir une sorte de pouvoir sur ce monde qu'il ne fréquente plus.
En tout cas, Marat aurait un point commun avec son ami le peintre David. Bon, le peintre David a échoué plusieurs fois à différents concours de l'Académie royale, on était encore sous la monarchie. Marat ne réussit pas ses études de médecine, mais finalement, tous les personnages de votre roman sont des femmes et des hommes extrêmement jeunes. Ils ont entre 25 et 35 ans, c'est les forces vives de la nation qui défendent un idéal ou alors s'entretuent, se déchirent. C'est terrible, cette France au bord de la guerre civile.
Ah
par
oui.
certains aspects, enfin, notamment
oui.
en Vendée.
Bah, de fait, en 1793, parce que le 14 juillet 1793, c'est à la fois la mort de Marat et c'est aussi la mort de Catelineau. Et on sait que les guerres de Vendée, qui vont être vraiment très meurtrières, sont déjà engagées. C'est aussi ce qui excite la peur à Paris. L'idée que l'armée de l'Ouest, l'armée contre-révolutionnaire, marche sur Paris. Mais évidemment, cette jeunesse, ce qui m'intéresse, c'était cette génération qui, à la fois, n'a pas suffisamment connu l'Ancien Régime pour y être entièrement... pétri de cette vie d'Ancien Régime et qui voit advenir un monde nouveau. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir les choix de chacun par rapport à ce monde nouveau qu'on leur a promis et qui tarde un petit peu à venir.
Et justement, c'est très intéressant parce qu'il est question aussi du monde d'avant, notamment à travers le parcours donc, du père de vos héros qui était perruquier, qui est une sorte de charge même héréditaire. Et les perruquiers, effectivement, coiffaient, enfin, recouvraient les têtes de la noblesse. Là, les têtes, elles tombent. Il y a aussi toute une... Je dirais que c'est le petit côté un peu enjoué de Gwenaëlle Robert dans une France au bord d'un gouffre tragique. Il y a parfois ces petites cocasseries qui font plaisir et réjouissent.
C'est vrai parce que je crois que la nuit du 4 août, c'est évidemment l'abolition des privilèges. Ce qu'on a retenu, c'était bien sûr l'abolition des privilèges de la noblesse, mais au sein des corporations, des corps de métier, c'est aussi l'abolition d'un certain nombre de privilèges. Et par exemple, le fait qu'on transmettait une charge dans le métier de perruquier, par exemple, pouvait se transmettre de père en fils. Il y avait une sorte de loi de l'hérédité qui permettait d'avoir un métier là où son père avait auparavant exercé. Eh bien, les corporations vont être elles aussi victimes de l'abolition des privilèges. Alors, ça m'intéressait ici de voir le lien entre un père et son fils, et puis un perruquier, parce qu'évidemment, ce sont ceux qui se sont retrouvés au chômage avec la chute de Versailles, d'autres corps de métier aussi, bien sûr, et d'abord tous ceux qui travaillaient à Versailles, donc ce qui était quand même quasiment une ville, quoi, l'équivalent d'une petite ville, et tous ceux qui vont se retrouver au chômage, mais on sait que parmi eux, les perruquiers ont envisagé de faire libérer Marie-Antoinette. Ils ont été vraiment les derniers fidèles. Il y a ce fameux complot des perruquiers, et on sait aussi qu'à Varennes, Marie-Antoinette avait demandé, ça n'a pas été une très bonne idée parce que ça n'a pas marché, mais elle avait demandé à Léonard, qui était son coiffeur, de participer. C'est lui qui devait transmettre le signalement au régiment qui attendait la famille royale. Il n'a pas attendu, ne les voyant pas venir finalement, il a aussi participé à l'échec de la fuite de Varennes.
Alors, vous l'écrivez Marat ici et là, Marat partout, d'une part. D'autre part, il y a donc le peintre David, alors qui lui aussi, finalement, est un fieffé coquin, d'une certaine manière. Oui. Quand bien même, il est le peintre officiel de la Révolution.
Oui, parce qu'à la fois, il est peintre officiel et en même temps, il a un rôle politique. Il est chargé des commémorations, des fêtes, et puis il est à l'Assemblée et il va même signer un certain nombre d'arrestations. En particulier, il va s'occuper beaucoup du procès de Marie-Antoinette. Donc, il a aussi un rôle politique, et c'était cette alliance du rôle politique, du rôle, bien sûr, artistique, son lien amical avec Marat. C'est quelqu'un qui admirait beaucoup Marat. Il l'a vu la veille, d'ailleurs, de sa mort, et donc se mêlait probablement dans son chagrin, après la mort de Marat, à la fois un chagrin d'ordre politique, mais aussi peut-être un chagrin sincère, le chagrin sincère d'un ami.
Gwenaëlle Robert, je rappelle le titre de votre roman, donc Le Dernier Bain, aux éditions Robert Laffont. Et j'ai dit au début de notre entretien, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre roman, hein, ça m'a rafraîchi. Merci. Beaucoup de mes connaissances. C'est un roman qui se lit avec, et qui est merveilleux à étudier avec une classe de seconde, par exemple. On peut y faire le narratif, l'épidictique, tout ce que l'on veut, hein, le polémique. C'est un roman de support formidable pour découvrir tous les registres littéraires. Par exemple, je me disais que ça pouvait être formidable dans le cas d'un projet histoire et lettres, mais ça, c'est peut-être pensé aussi un peu de votre côté, cet amour de l'histoire. Quand on aime la littérature, on aime forcément l'histoire aussi, hein.
C'est vrai. Et puis, oui, par ailleurs, moi, je suis professeur de lettres de formation, donc j'ai probablement toujours un peu cette idée-là de savoir ce que ça peut transmettre également dans un cadre pédagogique à des élèves.
Alors, votre roman, votre roman fait la part belle aux femmes. Que ce soit cette jeune Britannique qui veut régler son compte à Marat, mais je n'en dis pas trop pour que nos auditrices et auditeurs aillent se procurer votre ouvrage en librairie. Il y a bien sûr Charlotte Corday qui se sent, elle, investie d'une mission. D'ailleurs, il est question même de son devoir. Femme courageuse. Je dirais qu'elle est un petit peu le pendant de Marie-Antoinette. C'est des femmes qui font face à la mort avec une noblesse, un courage. Et puis à côté de cela, il y a toute une clique d'hommes. Alors, Théodose Billot, c'est un jeune homme de 20, je crois qu'il a 23 ans, il est né en 1770. Alors lui, il a renié sa foi, il est devenu écrivain public. Ça aussi, c'est encore un peu comme les perruquiers, hein. C'est l'ancien monde qui est obligé de s'adapter ou de mourir. Et toutes ces femmes sont finalement remarquables, alors que les hommes ne trouve pas tellement grâce, ni sous votre plume, mais ni auprès de nous lecteurs. Il y a un hommage aux femmes dans ce roman, m'a-t-il semblé.
Oui, il y a un hommage et puis peut-être aussi une justice, parce que je crois que l'histoire officielle a essentiellement retenu de la révolution des figures masculines. On voit bien par exemple chez Michelet, la révolution elle est dominée par toutes les figures masculines qu'on connaît, hein, de Robespierre, de Danton, des Moulins, etc. Or, les femmes, finalement, toutes celles qui ont voulu jouer un rôle dans cette révolution, je dirais un rôle politique, comme Théroigne Méricourt ou Olympe de Gouges ou encore Madame Roland, finalement elles finissent toutes très mal et je dirais qu'elles sont en quelque sorte aussi les oubliées de l'histoire officielle de la Révolution. Donc il y a eu peut-être une volonté de ma part de restaurer un petit peu leur rôle. Et par ailleurs, aussi je crois parce que j'avais été frappée en lisant l'histoire de Charlotte Corday, elle s'était sentie très seule, abandonnée par ses frères qui avaient tous émigré en Angleterre avec le projet peut-être de revenir en France, hein, avec l'armée des princes qui se formait à ce moment-là avec les émigrés français aux frontières de la France, mais qui finalement étaient tous partis. Et elle s'est sentie un peu abandonnée. Son père était un homme âgé qui était en plus qui vivait vraiment à l'écart, presque reclus. Et en voyant une affiche de Marat, sa tante a dit qu'elle avait eu cette phrase « Mais il n'y a donc plus d'hommes dans ce pays pour tuer Marat ». Et donc, elle a senti à ce moment-là que c'était à elle de le faire. Et j'ai trouvé que c'était tellement noble, tout à coup, cette espèce de responsabilité dont elle se sent investie, que je l'ai étendue à d'autres personnages féminins qui se sentent peut-être un petit peu abandonnés à ce moment-là.
D'ailleurs, page 50, vous écrivez, alors je crois que c'est un personnage, Gwenaëlle, j'ai besoin que vous m'aidiez, mais je vous cite, « Les femmes seront les grandes perdantes de la Révolution ».
Oui, oui, je crois que d'ailleurs c'est vrai, parce que on se souvient qu'Olympe de Gouges avait rédigé une déclaration des droits de la femme et qu'elle a été complètement balayée d'un revers de la main par les responsables politiques qui ont considéré que c'était vraiment une farce, quoi.
Alors, une femme aussi qui est impressionnante, c'est la femme du peintre David, parce qu'elle décide de divorcer lorsqu'elle apprend que David, son mari, a voté la mort du roi Louis XVI.
Oui, alors j'ai un petit peu inventé, parce que de fait on sait qu'ils ont divorcé à ce moment-là. Elle était, elle, plutôt royaliste. Elle s'est effrayée de voir son mari s'engager comme ça dans la Révolution et avoir des amitiés, par exemple, comme des amis comme Marat. Mais de fait, je n'ai pas tout à fait la certitude que le divorce soit à sa demande. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'au moment où la loi passe sur le divorce, donc pendant la Révolution, il y a tout à coup une sorte d'hécatombe du mariage, c'est-à-dire que beaucoup de couples se défont, divorcent. Certains d'ailleurs vont se remarier après la Révolution, et ce sera le cas de David et de son épouse qui se remarient en 96.
Alors bien sûr, vous nous présentez la reine Marie-Antoinette. Il faut imaginer ce qu'a vécu cette femme. Enfin, en France, il y a une espèce de passion tout de même pour Marie-Antoinette. Et il y a une scène absolument émouvante, c'est celle où les gardes viennent lui retirer son jeune fils, Louis-Charles, qui a 8 ans, je crois,
oui,
et qui va être confié à un cordonnier qui est censé faire de lui un citoyen. Et là, c'est déchirant aussi, cette scène à la prison, à la prison du Temple.
Oui, c'est atroce, parce que c'est tout ce qui lui reste, son fils, elle y est extrêmement attachée, elle a sa fille aussi, mais elle a vraiment pour son fils un amour qui est vraiment, qu'on peut d'ailleurs lire dans la lettre qu'elle lui a laissée. Et c'est évidemment déchirant, parce que elle n'a plus rien, elle n'a plus que lui, et on va lui enlever ce fils, considérant que il est nécessaire, puisqu'il est, après la mort de Louis XVI, il est l'héritier des Bourbons, en considérant qu'il faut absolument lui faire oublier son rang. Et que Marie-Antoinette, on sait qu'à la mort de Louis XVI, hein, elle s'est agenouillée devant son fils et elle lui a dit « Vous êtes maintenant le roi de France ». Elle le considérait vraiment comme Louis XVII. Donc on va lui faire oublier ce rang, et pour elle, c'est évidemment... on voit bien d'ailleurs dans toutes les récits, des complots, des tentatives qui ont été faites pour lui permettre de s'évader, on voit qu'elle abandonne à partir du moment où on lui arrache son fils, où elle perd vraiment l'envie de se sauver et de vivre.
Et on sait que Marie-Antoinette ira à l'échafaud avec un courage remarquable, exactement avec le même courage qu'utilise Charlotte Corday lorsqu'elle se trouve devant Fouquier-Tinville, devant le tribunal révolutionnaire dont elle sait pertinemment qu'il va la condamner à mort. Quoi. Finalement, je me suis dit, ces femmes ont existé et effectivement, elles sont plus courageuses que les hommes dans l'histoire et dans votre roman.
Elles sont très courageuses et surtout, je crois qu'on peut pas, on peut reconnaître qu'il y a une certaine forme de désintéressement de leur part. C'est-à-dire que on voit que chez les hommes, chez Robespierre par exemple, on voit qu'à un moment ils sont gagnés ils sont même enivrés par le pouvoir, tandis que chez ces femmes, il y a une forme de désintéressement. C'est-à-dire que elles n'ont rien à gagner pour elles-mêmes. Elles n'y ont pas d'intérêt personnel. Elles ne cherchent pas la gloire, elles ne cherchent pas la fortune. Alors que chez les hommes, évidemment, leur goût de la politique est parfois entaché par l'espoir d'un profit personnel. C'est le cas de Danton, par exemple, qui était corrompu. En tout cas, chez Marie-Antoinette, je me souviens de cette très belle biographie de Stéphane Zweig qui disait « Elle a été petite dans les petites choses et grande dans les grandes choses. » Et de fait, on peut reconnaître que, avec une certaine frivolité, quand elle a vécu à Versailles, elle s'était fait haïr, mais qu'elle a forcé l'admiration dans ses derniers moments, son procès où elle a été d'une dignité incroyable, et évidemment jusqu'à sa mort. Et puis, pour Charlotte Corday, ce qui est vraiment stupéfiant quand on lit son procès dans les actes du tribunal révolutionnaire, c'est de voir l'extrême précision de ses réponses, l'extrême concision aussi. Il y a une forme de simplicité. La plupart des réponses, je dirais même, je crois, quasiment toutes les réponses que je donne sont des réponses authentiques. Et il y a une espèce de simplicité comme ça, alors qu'elle n'avait pas préparé ce procès, puisqu'elle était persuadée qu'elle serait lynchée par la foule, entièrement lapidée, et que par conséquent, on ne lui laisserait pas le temps de s'expliquer. C'est pourquoi d'ailleurs, elle avait dans son corsage son acte de baptême, parce qu'elle craignait qu'on ne puisse pas la reconnaître, et qu'elle elle craignait d'être démembrée par la foule, et elle voulait quand même qu'on sache qui elle était.
On poursuit notre échange dans quelques minutes. On marque, si vous le voulez bien, une nouvelle pause musicale. Je rappelle que c'est votre émission littéraire, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir devant notre micro Gwenaëlle Robert qui signe aux éditions Robert Laffont Le Dernier Bain.
Je suis en cavale et le soleil me brûle la peau. Je pleure mes amis d'infortune ayant laissé leur vie au combat. Je me perds, mais j'ai l'espoir de refaire à neuf ma vie un jour où la terre est bonne, le ciel clément et ton cœur près de moi de temps en temps. Le sable fouette mon visage, un vent tiède me pousse vers le nord où rien ni personne ne m'attend, solitaire errant depuis la nuit des temps. Je marche jusqu'à la frontière et le soleil me brûle la peau, je perds mon souffle, la mort me guette, les vautours tournoient derrière mon dos. Serpents qui sifflent, tout qui s'affole autour de moi. La vision trouble, les mirages en pagaille, les rafales d'un vent sec qui écorche le visage. Les vautours affamés attendent ma débâcle. Que je tombe, je les entends penser à un festin du genre qu'on en reprendrait bien. À un de ces festins dont on se souvient. Go, go, go. J'aperçois au loin la frontière qui avance. J'aperçois au loin la frontière qui avance. Est-ce une vision de plus ou la fin de mon voyage? Une vision de plus ou la fin de mon voyage?
Go, 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 and
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Gwenaëlle Robert qui nous accompagne aujourd'hui sur Radion à bord de Wagon Livre. Elle signe aux éditions Robert Laffont Le Dernier Bain. Alors Gwenaëlle Robert, Charlotte Corday a 25 ans lorsqu'elle arrive à Paris. Elle vient de Normandie et elle loge dans un hôtel, l'hôtel de la Providence, au 19 de la rue des Vieux Augustins, et elle occupe d'ailleurs la chambre 7. Et elle n'est pas venue à Paris pour rien, puisque elle est venue pour y assassiner Marat, en le piégeant notamment, en lui demandant un entretien et en lui expliquant qu'elle a des noms de personnes à lui communiquer, des personnes qui sont, à ses yeux, des ennemis de la patrie et de la Révolution. Il s'agit bien sûr d'un stratagème pour rentrer dans l'appartement de Marat. Et Marat va être victime de ce à travers quoi il vit, à savoir la délation. Et Marat, d'une certaine manière, meurt de son vice sous les coups de poignard de Charlotte Corday.
Exactement. Elle dit que c'était ça, parce qu'on lui a reproché, on lui a dit cette perfidie de s'être fait introduire auprès de Marat en lui disant qu'elle avait des révélations à lui faire, des noms à lui donner sur des complots qui avaient lieu à Caen. Et en même temps, elle dit, je savais bien que c'était le seul moyen de l'approcher, c'était d'utiliser, je sais qu'il ne pouvait pas résister à cette idée d'une délation. Et donc effectivement elle emploie cette ruse, ce que David va vouloir dénoncer dans son tableau, en laissant dans la main de Marat une lettre qui était sur Charlotte Corday mais qu'elle ne lui a pas donnée, parce que finalement on l'a introduit sans qu'elle ait besoin de lui donner, où elle dit: je suis malheureuse, il suffit que je le sois pour avoir droit à votre protection. Et ce que David voulait évidemment montrer par cette lettre, c'est que Marat avait été victime de sa générosité ou de sa grandeur d'âme.
Alors on sait que le peintre David aimait beaucoup les scènes antiques, enfin qu'il a essayé parfois de retranscrire, sauf pour la mort de Marat, où il y a une forme de, je dirais pas réalisme, parce que je pense que le terme est incongru vu l'époque. Mais donc il y a beaucoup de références à l'Antiquité. D'ailleurs, Charlotte Corday, vous la présentez comme une héroïne qui s'inscrirait un peu dans la lignée des Phèdres, de ces héroïnes qui sont conscientes qu'elles vont périr et qui, pardonnez-moi, foncent et n'ont pas peur.
Oui, absolument. Alors d'abord, ce sont tous des personnages, David comme Charlotte, qui ont été élevés dans une culture antique, très forte, qui est celle du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que David, effectivement, il a appris à peindre avec des sujets, entre autres des sujets mythologiques. On se souvient du serment des Horaces, etc. Et chez Charlotte Corday, c'est d'autant plus fort qu'elle est une descendante de Corneille. Donc elle a aussi, dans cette filiation, qui est au cœur du roman, la question de la filiation, elle a aussi dans cette filiation, elle se sent une sorte de devoir d'être digne de son aïeul. Dans sa dernière lettre à son père, elle lui dit: n'oubliez pas ce que disait notre aïeul, le crime fait la honte mais non pas l'échafaud. Et elle fait sans cesse référence à des tragédies donc de Corneille, le plus souvent, et elle se présente comme une héroïne tragique qui se sacrifie par devoir.
Alors elle dit même alors au perruquier, puisque finalement il y a une espèce aussi de volonté d'être belle dans le crime, elle se fait coiffer auprès donc du père de notre prêtre jureur, Jean-Baptiste Billot, donc qui va coiffer, et il pense qu'il coiffe une femme qui va rejoindre un amant, alors que finalement Charlotte Corday va tuer l'homme qui est un peu l'amant de la France républicaine.
Oui, il y a cette méprise qui est aussi vraie de la part de Madame Grolier, celle qui tient l'hôtel de la Providence, cette impression qu'une jeune fille qui vient seule à Paris, elle vient nécessairement rejoindre un amant. Et cette méprise, elle est historique parce que elle perdure jusqu'à son procès où on est persuadé qu'elle a été armée par son amant. On ne peut pas imaginer que cette femme ait pris cette décision seule, et de fait, ce qu'on va essayer de lui faire dire, c'est qui lui a demandé d'aller assassiner Marat, qui a utilisé, elle, son charme féminin, et de fait, peut-être que Marat ne s'est pas méfié d'elle parce qu'elle était une femme. Or, il est établi qu'elle n'avait vraiment aucun... elle n'avait pas d'amant. On a vérifié après sa mort, elle était vierge. Et par ailleurs, il est établi qu'elle n'avait aucune relation avec un homme qui l'aurait armée pour tuer Marat. Mais il y a ce préjugé qu'une femme n'aurait pas pu seule aller tuer Marat. Et puis ce qui va accélérer aussi la peur, c'est-à-dire si même une femme jolie, elle est belle, elle est jeune, etc., peut vous assassiner, si même une femme peut devenir criminelle, alors tout le monde peut être un criminel. Donc le danger est partout. Et ça va évidemment accélérer la terreur à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle elle a, et comme vous l'avez dit, hein, le souci de mettre en scène quand même son personnage. Et elle fait réellement venir un coiffeur qui la coiffe avant d'aller rejoindre Marat. Elle a aussi le souci qu'on garde une image d'elle. Donc à son procès, elle demande
Formidable aussi. Elle veut. Alors, autant le peintre David veut absolument laisser une trace tragique, la mort de Marat, martyr de Charlotte Corday, martyr de la Révolution, et elle, Charlotte Corday, cette espèce de dernière coquetterie qu'elle a avant de périr sous l'échafaud, c'est qu'elle veut qu'on la dessine comme on dessinera Marie-Antoinette sur la charrette qui va la conduire à l'échafaud. À la fois, ces témoignages visuels et qui finalement sont une erreur. Mais vous avez fait ça tout au long de ce roman. Vous avez aussi glissé des tableaux dans les rues de Paris. Et c'est des tableaux qui, entrée en scène de Jane, entrée en scène de Simone Evrard, entrée en scène, il y a un petit peu comme des tableaux qui apparaissent, qui disparaissent. Et c'est extrêmement dynamique aussi. C'est très télévisuel, je trouve. Votre roman est très télévisuel.
Oui, je vous remercie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de guerre des images. Elle savait bien elle savait pas que David allait représenter Marat, mais en tout cas, elle savait qu'on ne la représenterait pas. Et de fait, David a pris soin d'effacer entièrement son visage, puisqu'on ne voit que Marat sur le tableau. Alors, elle avait effectivement le souci de laisser une image à postérité. Il y a un petit peu une guerre des images. On voit bien qu'à la Révolution, il y a déjà ce souci quand même d'une sorte de communication qui passe par l'image. Et je dis qu'évidemment, les églises ayant été fermées et les vitraux ayant été cassés, la République se souvient que pour transmettre, pour enseigner le peuple, il faut des images. Et elle va restaurer une sorte comme ça d'imagerie laïque et républicaine.
Elle construit sa légende. Et puis, c'est page 136, à propos de Charlotte Corday, le narrateur écrit « Elle va bientôt quitter l'enfance ». On a l'impression que les femmes demeurent à changer de statut et donc à peut-être rentrer dans un monde d'adultes qui a le droit à la parole. Oui. L'enfance, c'est un petit peu... L'enfance, c'est le petit... c'est le fils de Marie-Antoinette qui n'a pas son mot à dire et qui finalement est complètement écrasé par les événements. Alors que Charlotte Corday, elle dit « Non, mais moi, je prends en main mon destin. Elle sait ce qu'elle veut. »
Oui, et là, c'est vraiment révolutionnaire pour une jeune fille comme Charlotte Corday qui est issue de l'aristocratie, une aristocratie très pauvre, désargentée. Mais elle a été élevée dans un couvent avec l'idée qu'elle prendrait le voile... probablement pas par vocation, mais plutôt parce qu'elle n'avait pas le choix. Son père n'avait été très pauvre, elle n'avait pas de dot, donc elle ne représentait pas un parti. Et on sait bien qu'évidemment, sous l'Ancien Régime, la jeune fille, elle est d'abord sous l'autorité de son père, puis de son mari, ou de sa supérieure si elle entre dans les ordres. Or là, il y a une sorte de temps comme ça, de vacances au sens propre, c'est-à-dire où les jeunes filles ne sont plus sous l'autorité de leur père. Charlotte Corday a quitté son père, le couvent a été fermé, elle se retrouve dehors et elle va aller frapper à la porte d'une vieille tante à Caen qui va se sentir obligée de l'héberger. Et de là, elle va avoir une sorte de vie complètement indépendante, autonome, qui aujourd'hui nous semble une évidence, mais qui à l'époque représente une sorte d'exception dans la trajectoire d'une jeune fille. Et de fait, elle va mettre à profit cette liberté pour acquérir à la fois une sorte de clairvoyance politique, c'est-à-dire qu'elle lit beaucoup les journaux, elle s'intéresse à ce qui se passe, et en même temps, une sorte d'autonomie d'action en allant seule à Paris. C'est vraiment pour une jeune fille qui a toujours été élevée en province, qui n'est jamais allée à Paris, c'est un acte qui est une décision qui est très importante, ce moment où elle choisit de prendre un fiacre qui va l'emmener jusqu'à Paris et de prendre une chambre seule dans un hôtel.
J'ai dit au cours de notre entretien que votre roman pourrait être un magnifique support pédagogique en classe de seconde pour l'approche de l'épique, du lyrique, de l'épidictique, du polémique, etc., etc. Et il y a une phrase qui pourrait être un sujet peut-être de réflexion pour des élèves de seconde, allez, thèse, antithèse, synthèse. Cette phrase, je l'ai relevée, elle est page 107, me semble-t-il. « Ce n'est pas un crime que de tuer un assassin », c'est un peu le mot d'ordre de Charlotte Corday. Et vous, Qu'en pensez-vous, Gwenaëlle Robert? Ce n'est pas un crime que de tuer un assassin? Comment vous vous positionnez par rapport à ces horreurs de cette France de 1793? C'est difficile, en 2018, de juger l'histoire, mais vous regardez l'histoire avec horreur ou en disant non, comment vous faites le bilan de cette période difficile?
J'ai une grande admiration pour Charlotte Corday. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est peut-être pas un modèle, mais en tout cas un exemple de grande lucidité et de grand courage. Moi, j'ai surtout un regard, je dirais, de romancière. C'est-à-dire que ce que je trouve fascinant dans cette période, c'est que c'est, je pense, l'histoire, l'apogée de l'histoire. C'est-à-dire vraiment, il y a une sorte de collision des idées, du pire qui embrasse les idées les plus généreuses et qui donne les instincts les plus meurtriers. Donc il y a une sorte, je dirais, de paroxysme de tout, du bien comme du mal, du sang, des destinées incroyables qu'on croise à cette période. Mon regard de romancière, il est évidemment fasciné par ce paroxysme. Et ensuite, évidemment, il y a toute une dimension réflexive, philosophique dans la citation que vous avez faite et qui a servi de support à beaucoup de pièces de théâtre. Je pense au Juste de Camus ou au Mainsal. La question est de savoir jusqu'où on peut aller pour sauver son pays.
Est-ce que, quand on écrit un roman historique, forcément... On est obligé. Il y a des garde-fous. On ne peut pas s'offrir toutes les libertés. Votre documentation a été importante.
Oui, moi j'avais d'abord.
N'est-ce pas un peu contraignant de beaucoup se documenter pour se donner la liberté après d'écrire, d'inventer ou de trahir un petit peu l'histoire?
Moi, ayant un intérêt particulier pour cette période, j'avais d'une part une documentation qui était assez ancienne. Donc je dirais que j'ai pas eu besoin de me documenter pour ce livre en particulier. Et c'est ce qui permet l'intérêt dans le roman historique, évidemment, c'est de faire passer l'histoire par une sorte de tamis, de filtre, du filtre de l'imagination, de la subjectivité et de la mémoire. Et donc je dirais que toute cette documentation, elle avait suffisamment infusé pour que j'aie ensuite la liberté d'utiliser ce matériau de façon pas trop contraignante. Je ne me suis pas du tout sentie limitée par, alors hormis évidemment les questions de chronologie ou de géographie, mais il se trouve que mes personnages ont été assez dociles pour se réunir sur quelques rues et pour agir sur quelques jours, ce qui donnait comme ça une sorte d'unité de temps et de lieu qui servait aussi la tragédie. Mais je crois que le propre du roman par rapport à l'histoire, c'est d'offrir d'une part une loupe, de mettre en lumière des personnages anonymes. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ces trois personnages fictifs que sont Marthe Brissot, le moine et puis la jeune anglaise. Offrir une loupe à des anonymes et montrer comment les drames personnels de chacun, puisqu'au fond ils sont tous animés de raisons intimes pour tuer Marat, pas forcément de raisons politiques, comment les drames intimes entrent en collision avec la violence de l'histoire. Et ils sont en quelque sorte jetés comme ça dans la violence de l'histoire et chacun se débat. Bas, essaye de s'accrocher à une rive. Mais je crois que le propre du roman, c'est d'une part effectivement proposer une sorte de loupe, incarner l'histoire, et puis peut-être aussi tirer de cette histoire une sorte de légende, de mythe. Et je crois que Charlotte Corday, mais elle n'avait pas besoin de moi pour ça, elle entre dans la légende par la portée de son geste et par ce caractère sublime qui l'élève quasiment au-dessus d'elle-même.
Gwenaëlle Robert, avant de nous séparer, moi j'ai relevé trois phrases qui me paraissent être encore d'une grande actualité. Par exemple, page 40, vous écrivez « Par les temps qui courent, il vaut mieux perdre sa vertu que perdre sa tête ». Alors je dirais qu'aujourd'hui, on dirait que perdre la tête. Peut-être ce qu'on a vu à travers quelques mouvements de gilets jaunes, parfois un peu excessifs. Bon, une autre phrase qui me paraît d'une grande actualité. « Tant qu'il applaudit, le peuple ne pense pas à la fin qui le tenaille ». C'est un peu le principe de Panem et de Kierkenses. Enfin, on le retrouve. Et puis alors, plus terrible, mais là je suis peut-être un peu accusateur, la fraternité attendra. Parce que dans la trilogie, il y a l'idée de bonheur, égalité et liberté. Et effectivement, vous écrivez, la fraternité attendra. Et j'ai l'impression aujourd'hui que notre société manque beaucoup de fraternité.
Oui, je crois que c'est tout à fait vrai. Je crois que on a souvent, on a davantage retenu peut-être les deux premiers mots de la devise, la liberté, l'égalité. Et je crois que la fraternité, c'est un peu le parent pauvre, c'est-à-dire que on l'a laissé un petit peu de côté. Peut-être parce qu'on s'est rendu compte que c'était difficile de parler de fraternité. Peut-être que le mot frère supposerait d'avoir un père et que à la mort de Louis XVI, le père commun, finalement ayant disparu, ce lien de fraternité, l'idée qu'on est tous frères, c'est peut-être un peu délité. Et il manque probablement au peuple une figure tutélaire ou en tout cas une certaine idée d'une paternité qui, à mon avis, permettrait de restaurer cette fraternité qui manque. Pour être frère, il faut avoir un père commun. Et peut-être que c'est le père qui manque.
Alors il y a, je vais terminer, c'est des anecdotes, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple, la bière manque dans ce Paris de juillet 1793, parce qu'effectivement, les moines, certains moines qui fabriquaient cette bière, leurs couvents ont été transformés parfois en usines à salpêtre. C'est le cas du couvent de Théodose Billot, notamment, qui est devenu une raffinerie de salpêtre, très précisément. Et puis, il y a toute cette France que vous ressusciter. Enfin, moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à vous lire et à me promener dans ce Paris de l'époque, bruyant. Il n'y a pas que des délations, mais il y a aussi le petit peuple de Paris. D'ailleurs, Théodose Billot, ce prêtre jureur donc, qui a renié sa foi, qui a vécu dans le silence des cloîtres et des couvents, ne supporte pas le bruit de la rue de Paris. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était tout à fait formidable.
Oui, on peut imaginer que c'est une forme d'agression tout à coup. Et surtout que la Révolution, elle suscite une parole publique très importante. Donc on parle beaucoup dans les rues. Et tout à coup, des gens qui avaient une vie assez austère, assez réglée, pas seulement les moines, mais même la vie à l'époque, qui était sans doute plus sobre et plus pudique, tout à coup, elle se trouve entièrement libérée, parce que la parole est libérée, et on parle facilement dans les rues, n'importe qui prend la parole, on voit bien tous les orateurs, etc. Et j'imaginais qu'évidemment, tout ce bruit, toutes ces paroles, ça devait agresser cet ancien moine qui est sans doute rentré aussi un peu pour échapper au monde. On voit bien que dans sa vocation, en tout cas dans ses motivations, il y avait la recherche d'une retraite, de se tenir à l'écart du monde et du bruit du monde.
En tout cas, dans Le mariage de Figaro, qui est sous-titré La folle journée, il y avait déjà un peu cette contestation des abus des nobles. Et vous, ces trois folles journées, ça commence le 11 juillet jusqu'au 14 juillet, c'est les trois folles journées où défilent comme ça ces personnages, ces va-et-vient d'héroïnes, de femmes superbes, courageuses, certaines qui vont vers la folie face aux abominations qu'elles constatent, notamment l'enlèvement du fils de la reine Marie-Antoinette que l'on regarde par le biais d'une petite fente avec... voilà, on me fait signe, et je crois que nous avons quand même bien bavardé. En tout cas, je recommande vivement Le Dernier Bain, roman de Gwenaëlle Robert aux éditions Robert Laffont. Merci Gwenaëlle Robert.
Merci beaucoup.